En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, peut-on anticiper les conséquences climatiques sur la biodiversité? Comment les animaux font-ils face au changement climatique? Quel est l'impact de la température sur les plantes? Des questions brûlantes à l'heure du développement durable qui sont au cœur de toutes les préoccupations actuelles. C'est ainsi que s'est terminée la clôture de la quatrième année polaire. Elle se déroulait le 14 et 15 mai 2009 au Sénat et au Collège de France. Cette quatrième retransmission est consacrée à la biodiversité et à son évolution en zone polaire. Les régions polaires sont parmi les milieux les plus sensibles de notre planète. Et en étudiant ces régions, les scientifiques peuvent alerter sur ces enjeux majeurs pour les générations futures. La biodiversité sera ainsi l'un des enjeux majeurs de l'écologie de demain. On assiste depuis ces 50 dernières années à un réchauffement climatique de 3 à 4 degrés sur les régions polaires, qui aura pour conséquence un bouleversement de la biodiversité, avec une forte diminution des calottes glaciaires, une perturbation de la faune et de la flore, ainsi que l'extinction de certaines espèces, telles que le manchot, le renard ou l'ours polaire. Vous allez ainsi écouter le docteur Françoise Gayle, directrice de l'Institut Écologie Environnement et chercheur au CNRS, exposer ses travaux sur l'interface entre la biodiversité et le changement climatique. Le professeur Nigel Yokoz, président du conseil scientifique de l'Institut Paul-Émile Victor et chercheur à l'Université de Tromsø, évoquera quant à lui les conséquences du réchauffement climatique sur les écosystèmes. Enfin, le docteur Yves Renaud parlera de la biodiversité antarctique et subantarctique et des modifications qu'elle subit actuellement. Pour clôturer ce colloque sur la quatrième année polaire, vous entendrez le discours du prince Albert II de Monaco et de Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Si nous regardons ce que vous avez déjà vu au cours de ces deux jours, l'Arctique et l'Antarctique, vous voyez la différence. L'Antarctique à droite, un continent entouré d'océans. Et l'Arctique à gauche, un océan entouré de continents. Ce qui a un certain nombre de conséquences sur la biodiversité et les écosystèmes qui peuplent ces contrées. L'Arctique, comme on le voit sur cette diapositive, est peuplé d'environ 4 millions de personnes qui ont des histoires linguistiques différentes et dont la présence humaine date de plus de 20 000 ans, alors que le continent antarctique, lui, que vous voyez représenté ici avec ses 37 stations actives actuellement, est peuplé uniquement de voyageurs transitoires, qui sont les chercheurs et les logisticiens, avec également les touristes qui peuvent atteindre plus de 50 000 personnes par an. Si on s'appuie sur les données du GIEC de 2007, tout le monde s'accorde maintenant à reconnaître que, d'une part, on a eu un accroissement thermique au niveau global. On a eu également une accélération de l'élévation du niveau moyen des mers qui, dans les dernières 50 années, ont été également corroborées par la disparition d'une couverture neigeuse de l'hémisphère nord. Et si on compare ce qui s'est passé dans l'Arctique avec ce qu'on obtient au niveau global, on s'aperçoit que le réchauffement en Arctique est le double de celui qui existe à l'échelle du globe, que ce soit au XIXe comme au XXIe siècle. Ce qui a quelques conséquences, comme vous pouvez le voir ici, sur le fait que, par exemple, depuis 2 ans, il est possible de passer par le passage du Nord-Ouest dans cette région, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui était beaucoup plus rare. Et puis, du point de vue de l'Antarctique, on s'aperçoit que sur les 50 dernières années, on a eu une élévation de 3 à 4 degrés de la température, ce qui est particulièrement visible dans la partie qui fait face à la partie sud du continent de l'Amérique du Sud. Et ces régions polaires soumises comme ça à ces changements climatiques voient leur population animale, en particulier, soumise à des situations qui sont extrêmement dangereuses pour leur avenir. Par exemple, si on regarde l'ours polaire, il est évident que toute réduction de la surface de la banquise va entraîner une pression sur son comportement qui, à terme, peut avoir des conséquences irréversibles. C'est vrai de l'ours polaire, mais c'est aussi vrai, par exemple, du manchot adélie. Ursus, sur cette carte, vous voyez le manchot adélie sur la gauche, nous avons 7 sites dont les populations ont été suivies, avec en rouge les populations en déclin. C'est là où les conditions climatiques sont les plus variables, alors que sur la partie est, en vert, les situations des populations locales sont soit soumises à des contraintes plus stables et sont beaucoup plus stables du point de vue de leur population. Si on regarde les 6 thèmes de l'année polaire internationale, nous avons eu une attention particulière avec ce qu'on appelle l'état des lieux, à savoir qu'est-ce que nous avons dans ces régions du point de vue quantitatif, du point de vue qualitatif, quel type d'espèce, où. Et puis la deuxième question avait trait à la thématique du changement. Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, nous avons un réchauffement climatique? Que peut-on prédire pour la biodiversité de ces régions? Quels vont être également les liens du point de vue global? Est-ce qu'on peut, par exemple, au niveau des pôles, avoir une idée du cycle du carbone? Ou peut-on prédire ce qui va se passer sur la circulation océanique dans son ensemble si nous avons une diminution ou un accroissement de la température? Et puis, nouvelle frontière, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu actuellement. Qu'avons-nous dans les grandes profondeurs, par exemple, sous la calotte glaciaire? Quels sont les écosystèmes qui peuplent ces régions? Point singulier, enfin, comment pourrions-nous valoriser ces régions qui sont particulières et singulières du point de vue de leur isolement relatif? En tout cas, c'est vrai pour l'Antarctique, dans la mesure où il est rare aujourd'hui que nous ayons des régions qui soient dites naturelles, la plupart des milieux que l'on dit naturels étant déjà anthropisés. Et donc, ce sont des régions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour avoir encore une idée de l'évolution du vivant sur cette Terre. Et puis, enfin, aussi, la dimension humaine, puisqu'au niveau de l'Arctique, on l'a vu, il y a un certain nombre de populations qui ont une histoire, qui ont aussi un devenir, et comment cette adaptabilité de ces populations peut-elle se projeter dans l'avenir. Je vous ai là présenté les différents programmes qui ont été soutenus à la fois dans l'Antarctique et dans l'Arctique. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Ceux qui sont scientifiques sont sur la gauche, et en rouge sont ceux qui concernent la biologie et la biodiversité. Deux remarques sur ces programmes. D'une part, ceux qui concernent l'océan sont majoritaires. Ceux qui concernent la Terre sont assez prépondérants également. Ceux qui concernent l'espèce humaine sont très peu nombreux. Si on regarde, par contre, là, les programmes comparatifs entre Antarctique et Arctique, on voit que ces programmes se distribuent de façon absolument équivalente entre l'océan et ce qui est terrestre. Il est important de savoir que la France a des résultats dans le domaine de la recherche polaire qui sont extrêmement visibles au niveau international. Si on regarde la production scientifique réalisée par les chercheurs, quelle que soit leur origine, dans ce domaine-là, on s'aperçoit que pour l'Arctique, sur les années 92 à 2009, la France occupe la 10e place. Et si l'on regarde les thématiques dans ce domaine, on voit qu'il n'y a pas particulièrement de thématiques majoritaires, excepté l'identification dans le domaine de la météorologie et dans celle des géosciences, d'une position importante. Si par contre on regarde les recherches basées sur la production scientifique sur le Web of Science des équipes dans l'Antarctique, la France devient sixième, j'ai même presque cinquième ex aequo avec l'Italie avec laquelle elle collabore. Et là, on voit que, du point de vue thématique, ce sont les thématiques de l'Institut des sciences de l'univers qui sont majoritaires. Les trois quarts de la production scientifique viennent de ces disciplines, qu'il s'agisse de la météorologie, des géosciences, de l'astronomie, de la géochimie. Et le quart et surtout le reste, et surtout vient des équipes qui font de l'écologie. Par contre, si on regarde les productions scientifiques qui sortent des études réalisées sur les îles subantarctiques, on s'aperçoit que la France est première du point de vue de la production scientifique et que dans ces contrées, ce sont les équipes qui sont dans le domaine de l'écologie et de l'environnement, qui sont les plus productrices. Je pense que c'était extrêmement intéressant de noter cet aspect, qui a été d'ailleurs relevé par Monsieur le Préfet, et qui, dans l'avenir, vont nous permettre, sans aucun doute, d'amplifier l'effort que nous avons fait jusque-là. Si on continue l'analyse de ces publications françaises, 98-2007, cette fois, on voit que, du point de vue des lieux, ce sont les études qui ont lieu dans le subantarctique et de la Terre Adélie qui représentent près de 70% de la production scientifique. L'Arctique, c'est moins de 20%, l'Antarctique, 1%, et Concordia, qui est extrêmement important, représente 14%. Concordia important, puisque vous le savez également, c'est sur ces lieux-là qu'on a eu les résultats les plus visibles aussi au niveau international concernant le programme EPICA et le fait que nous avions des données importantes montrant la validité de l'hypothèse du changement climatique. Du point de vue de la répartition des travaux thématiques dans ces îles subantarctiques, on voit que l'écologie terrestre est majoritaire et qu'elle concerne surtout l'étude des oiseaux et des mammifères. Il y a une chose qui est assez intéressante à voir, néanmoins, c'est que les études concernant les espèces introduites, en particulier des mammifères introduits, sont en forte croissance. Cet ensemble de résultats repose sur la qualité des laboratoires français qui ont su très tôt se mettre en position d'observer sur le long terme les traits d'histoire de vie des animaux ou la dynamique des populations. C'est vrai pour les oiseaux, avec là, vous voyez l'évolution du nombre de couples reproducteurs, et il y a peu de pays qui ont autant de données sur une cinquantaine d'années. C'est vrai également pour la survie des adultes de ce même type d'organisme. Yvon Lemahaut en a parlé tout à l'heure. Il est également vrai que le développement de tout ce qui a été électronique et le travail interdisciplinaire qui s'est noué autour de ces problématiques ont permis non seulement de savoir ce que faisaient ces animaux à terre, mais aussi de suivre leur exploration au niveau océanique. Et là, c'est vrai, l'équipe de Chizet a joué un rôle important, puisque les premiers à avoir réalisé ces travaux, qui sont illustrés ici, sont l'équipe de Jouventin et de Wemmer-Kirsch. La miniaturisation aussi de ces équipements électroniques comme Yvon l'a montré tout à l'heure, est importante pour non seulement savoir ce qu'ils font, mais comment ils le font. C'est-à-dire que, par exemple, sur cet animal qui a un chapeau tout à fait original, un peu japonais, il faut le dire, on peut suivre la plongée de ces animaux avec la durée de cette plongée, savoir jusqu'où ils vont et combien de temps ils restent au fond, ceci en étant relié aux conditions physiques et chimiques de l'environnement. Et par exemple, voilà une illustration des résultats qui ont été réalisés là dans une collaboration extrêmement internationale, où on voit le départ de Kerguelen vers l'océan Antarctique de ces animaux qui sont capables d'aller jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur, ce qui est quand même énorme. Et on voit aussi la manière dont ils se déplacent à la surface ou au fond des océans en fonction de la température. L'ensemble de ces données contribue à la disposition des données au niveau international à travers l'Observatoire mondial des océans, et il faut insister aussi sur la qualité des travaux réalisés par les équipes grâce à l'IPEV, qui permettent d'alimenter pour plus de 90% les données de la base Coriolis. J'allais vous montrer les travaux réalisés par Yvon Le Mao, vous avez vu combien ces animaux sont particulièrement attachants et originaux. En dehors des animaux, il y a aussi un aspect très important qui concerne l'impact des changements climatiques sur la végétation, qu'il s'agisse du suivi des traits chez une vingtaine d'espèces, où on peut, de cette façon-là, anticiper la plasticité des réponses des plantes, mais aussi regarder la manière dont le couvert végétal, en fonction des espèces invasives, peut être modifié. Et puis, avec un autre type d'échelle, voir aussi l'évolution des sols par les images satellitaires. Les espèces invasives, c'est quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en forte croissance et qui est extrêmement intéressant, puisque, en fait, dans ces zones, on a la possibilité d'avoir un faible nombre de paramètres et les situations nous permettent de comprendre la manière dont une espèce va devenir proliférante ou non. Alors, c'est vrai que nous travaillons sur les chats, sur les lapins aussi, et comme plante invasive, mais non forcément dangereuse, nous avons les pissenlits. Et quelque chose dont on parle peu encore, mais qui dans l'avenir va certainement être d'une visibilité plus grande, ce sont les rôles des interactions entre plantes-insectes qui permet, dans certains cas, d'avoir une symbiose et peut-être aussi d'entraîner une adaptabilité particulière de certaines espèces végétales. Le CNRS, par rapport à l'Antarctique, à un certain nombre d'équipes dont je vous ai parlé tout à l'heure, a eu le souci de rationaliser ces programmes et les a réunis dans ce qu'on a appelé une zone atelier de recherche sur l'environnement antarctique et subantarctique. Ça veut dire que cette zone recouvre les travaux réalisés non seulement sur l'archipel de Crozet et les îles Kerguelen, mais aussi les îles Amsterdam et Saint-Paul et la Terre Adélie. Et cette coordination comporte trois thématiques. Le premier concerne l'impact des changements climatiques et des espèces introduites sur les communautés et les écosystèmes terrestres. Donc, c'est Marc Le Bouvier et Dominique Pontier qui s'occupent de ce volet-là. Le deuxième vient d'être présenté brièvement par Yvon Le Mao, c'est le suivi à long terme avec un certain nombre d'aspects différents. Il concerne les oiseaux et les mammifères marins. Et le troisième volet concerne les réseaux trophiques, la variabilité physique et la variabilité biologique de l'écosystème, lui, pélagique. Et là, c'est Charles-André Bost et Philippe Coubi. Si on regarde la manière dont le polaire est étudié en France, c'est une carte assez intéressante, puisque vous voyez qu'il y a sept laboratoires qui sont finalement distribués sur tout le territoire. Et ce réseau est particulièrement puissant du point de vue de la créativité scientifique, puisqu'il a non seulement des programmes ANR, mais il a également réussi à avoir plusieurs programmes au cours de l'année polaire internationale. Je pense qu'il est également important de souligner le rôle que ces équipes et que les scientifiques jouent pour la diffusion des connaissances sur le polaire. Et vous voyez là sur cette carte également les manifestations, qu'il s'agisse d'expositions de longue durée ou d'autres manifestations. On voit que, bien que le polaire soit assez loin du territoire, il n'en reste pas moins que l'ensemble des régions françaises sont particulièrement attirées par ce type de recherche. Et puis, pour finir, je pense que les deux dernières années ont donné lieu à un certain nombre de résultats et ça n'est pas terminé. Et ce que je souhaite, c'est que dans l'avenir, nous puissions suivre encore ces animaux et en parler à la prochaine réunion de l'année polaire internationale, c'est-à-dire dans 50 ans. Merci.
Travaillant sur les écosystèmes terrestres dans l'Arctique, on a deux inconvénients. On n'a pas une espèce emblématique comme l'ours polaire. Souvent, quand on parle de l'Arctique, on prend l'ours polaire comme exemple. Alors que je dirais qu'une espèce comme le caribou ou le renne, suivant le continent sur lequel on travaille, sont sûrement plus importantes pour les gens dans l'Arctique. Et aussi, par rapport à l'année polaire internationale, en 57-58, il n'y a pas eu d'effort de fait côté écosystème, donc nous n'avons pas de recul souvent supérieur à 10 ou 15 ans, ce qui limite souvent nos perspectives sur les changements que l'on voit aujourd'hui. Ensuite, cela a déjà été dit, l'Arctique est un océan entouré de continents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la partie arctique, si on la définit surtout en termes de végétation, constitue essentiellement une petite frange le long de ces continents. Ici, les différentes zones sont ce que les gens travaillant sur la végétation arctique définissent en termes de type de végétation, et cela dépend essentiellement de la température en été. Les différentes zones, là, celles en orange, en jaune et en verte, représentent une différence de température au mois de juillet de l'ordre de 5 degrés. Si vous vous rappelez toutes les présentations sur les changements climatiques, les changements attendus sont au moins ou supérieurs à cette différence de 5 degrés. Donc si vous faites une translation de ces écosystèmes vers le nord de 5 degrés, pour l'essentiel, ces écosystèmes disparaissent. Les écosystèmes arctiques ne sont pas différents de ce que vous avez ailleurs, c'est-à-dire que vous avez d'abord des producteurs primaires, des plantes, ensuite des herbivores comme les lemmings, les rennes ou les oies des neiges, ensuite des prédateurs comme la chouette arfan ou le renard polaire. Une des différences, c'est que certaines de ces espèces sont quand même relativement emblématiques, même si elles ne sont pas autant que l'ours polaire. La chouette arfan est devenue relativement célèbre avec Harry Potter, même si le lien avec l'Arctique est relativement ténu. Mais, bien sûr, j'y reviendrai, la chouette arfan pourrait vraiment jouer un rôle tout aussi important comme, je dirais, sentinelle des écosystèmes terrestres que l'ours polaire pour les écosystèmes marins. Ce qui différencie peut-être les écosystèmes arctiques et terrestres, c'est que les lemmings, donc qui sont un des herbivores essentiels dans ces écosystèmes, ont des variations, où j'y reviendrai hélas peut-être avec des variations, cycliques, c'est-à-dire que ces populations de lemmings, et il y a plusieurs espèces concernées, là vous avez à gauche par exemple le lemming à collier, qu'il y a au Groenland ou en Sibérie ou en Canada, à droite les lemmings de Norvège, donc qui est restreint à la Scandinavie et Finlande. Ces espèces donc pullulent tous les 3, 4 ans, des fois 5 ans, et ce sont des variations qui sont absolument énormes en termes de densité. Vous passez de densité qui peuvent augmenter donc d'un facteur 100 ou 1000 en l'espace donc de 2 ou 3 ans. Alors ces fluctuations ont un impact sur le reste de l'écosystème. C'est pour ça qu'ils jouent un rôle clé. Il est difficile de comprendre la dynamique de ces écosystèmes si on n'a pas une bonne idée, si on ne comprend pas les fluctuations de ces petits herbivores, donc des lemmings. Vous avez ici à gauche, en haut, les fluctuations des renards polaires en Suède. Alors ici, c'est les individus reproducteurs, parce que vous pouvez vous demander s'ils arrivent à zéro de temps en temps, d'où ressortent-ils. Donc là, il s'agit seulement des individus qui se reproduisent une année donnée. À gauche, la figure, quand vous avez ces fluctuations assez dramatiques, c'est une période où les lemmings avaient une fluctuation cyclique. Et le moment où les lémmings, au début des années 80, ont commencé à ne plus avoir ces fluctuations cycliques. Les populations renards, donc polaires en Suède, ont lentement décliné, jusque donc quasiment une presque extinction donc au début des années 2000. À droite, en haut, vous avez la fluctuation donc des nombres de chouettes arfans se reproduisant sur l'île de Bilot, comme disent mes collègues québécois. Les barres indiquent les nombres de chouettes arfans se reproduisant. Et vous avez donc la ligne noire avec les petits points, ce sont les fluctuations de lemmings. Les chouettes arfans ne se reproduisent que les années où les lemmings sont abondants. En bas à droite, vous avez l'impact indirect sur les herbivores, ici l'oie des neiges. Alors ici, les choses sont un peu plus compliquées, c'est que les oies des neiges, en fait, ne se reproduisent bien que les années à lemmings et se reproduisent très mal ou un succès de reproduction très faible les années sans lemmings. Pourquoi ? Parce que les renards polaires, qui sont un des prédateurs sur en particulier donc les œufs d'oies des neiges ou les oisillons, quand il n'y a pas de lemming, eh bien, ils se rabattent sur les oies des neiges. Donc ce sont toujours des mauvaises années pour les oies. Alors je vais essayer de donner quelques perspectives sur les projets Année polaire internationale. Donc dans lequel j'étais partie prenante, mais surtout donc, d'autres projets qui consistent en des approches différentes au niveau du fonctionnement de l'écosystème. Je parlerai d'abord de deux projets, Greening of the Arctic et ITEX, qui mettent l'accent sur ce qu'il se passe, je dirais, en bas de l'écosystème, c'est-à-dire sur les plantes. Quel est l'impact de la température, par exemple, sur la productivité primaire, donc sur les plantes. Ce qu'en anglais on dit bottom-up, c'est une approche de bas en haut. On commence par les plantes en se disant qu'on pourra déduire le reste de ce qui se passe en bas. Avec ses collègues donc, québécois Gilles Gauthier et Dominique Berthaud, nous avons plutôt mis l'accent sur une approche de haut en bas, c'est-à-dire regarder ce qui se passe au niveau des prédateurs ou des herbivores, et donc ensuite sur les plantes. Ensuite, il y a certains projets donc, dont je parlais, donc CARMA, qui est toujours ces acronymes pour ces différents projets, qui est un projet qui porte sur les caribous, donc Circum Arctic Rangifer Monitoring, un rangifer non latin du caribou du Rennes, qui est un projet qui s'intéressait exclusivement à un niveau donc, de ces écosystèmes. Alors d'abord, donc, ce projet Greening of the Arctic, dirigé par Skip Walker à l'Université de Fairbanks, donc en Alaska, c'est une approche qui était pour l'essentiel d'approche satellitaire, je disais donc de regarder ce qui se passe à grande échelle avec les données satellites, et en particulier basé sur ce qui s'appelle le NDVI, c'est un indice qui mesure en gros l'activité photosynthétique de la végétation. Alors ici, la carte est un peu compliquée, celle de droite, parce qu'ils ont essayé vraiment de regarder la variabilité dans l'Arctique. Et ça, je pense que c'est un point qui est important, qu'on oublie souvent, les choses ne se passent pas vraiment de façon homogène. Alors rapidement, si vous regardez en haut à gauche, qui est la partie Alaska-Sibérie de l'Est, il y a une forte augmentation de la température, ce sont les cercles rouges pleins. Il y a une forte diminution de la glace de mer, ce sont les cercles ouverts bleus. Et vous avez aussi une augmentation du NDVI, donc de la productivité primaire, de la biomasse des plantes. Vous avez donc ces cercles verts pleins. Par contre, si vous regardez ce qui se passe dans certaines parties de la Sibérie, ou plus proche de chez où je travaille, donc de la Scandinavie, vous avez une forte diminution de la glace de mer, ça c'est la même chose. Vous avez une augmentation de la température estivale qui est moins claire, très faible en fait dans la partie médiane, je dirais, de la Sibérie. Et dans certains endroits, en fait, une diminution de la productivité primaire, pas une augmentation qu'on pourrait aussi attendre vu l'augmentation de la température. Donc, hétérogénéité. Alors, sur le terrain, ce projet aussi a essayé de valider ces mesures satellitaires à partir de deux transectes, un en Sibérie, sur la péninsule de Yamal, et un, donc, à la cheval sur l'Alaska et le Canada. J'irais à l'opposé, en termes d'échelle. Le précédent projet mettait vraiment l'accent sur l'approche satellitaire, à très grande échelle. Un projet comme ITEX, qui s'appelle donc International Tundra Experiment, lui, regarde vraiment ce qui se passe, comme vous voyez sur la photo, ici, en haut à gauche, à l'échelle de, en gros, à 2000 m². Et l'idée de ce projet, qui dure depuis en fait 20 ans, donc que l'Année polaire internationale a permis de renforcer, de relancer, c'est de regarder ce qui se passe si on met ce genre de petites chambres en plexiglas pour augmenter la température de façon locale. Donc, très petite échelle et vraiment approche expérimentale à l'opposé de ce que faisait Greening of the Arctic. Alors, ce projet aussi un grand intérêt, c'est que bien sûr il y a des contrôles, c'est une approche expérimentale, on ne fait pas que manipuler, on regarde aussi ce qui se passe quand on ne manipule pas. Et comme il y a 20 ans de recul, permet aussi de voir sur ces zones de contrôle quels ont été les changements au niveau de la végétation. Et ces deux projets, Greening of the Arctic et donc le projet ITEX, ont quand même, malgré l'hétérogénéité spatiale, comme conclusion majeure, c'est que l'Arctique verdit, même donc, s'il y a des hétérogénéités, et surtout par une augmentation de la couverture de buissons. Ici, c'est une photo sur un des sites sur lequel je travaille, donc, qui est dans la partie Russie-Arctique, dans Nenetsky, avec des buissons de saule. Vous avez la même chose sur Yamal. Si vous interrogez les éleveurs de rennes de ces régions-là, ils vous diront qu'il y a 30 ou 40 ans, ces buissons de saule ne faisaient pas plus de 20 ou 30 cm de haut. Maintenant, ils font 2 mètres de haut. Donc, un changement vraiment important au niveau de la structure de la végétation. Par contre, ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, c'est une colonisation par de nouvelles plantes. Cette augmentation de la biomasse se fait essentiellement par une meilleure croissance, donc une augmentation de la croissance d'espèces qui étaient déjà présentes, par exemple comme ces buissons de saule qui faisaient 20 cm ou 30 cm il y a 30 ou 40 ans, et maintenant 1,50 m à 2 m. Donc maintenant je monte d'un niveau, Karma, donc un projet là vraiment d'état des lieux. Qu'est-ce qu'on sait des populations de rennes? Donc les rennes sont le nom qu'on utilise en Eurasie, ou les caribous, donc c'est le nom qu'on utilise en Amérique du Nord. Quel est l'état de ces populations sauvages de rennes? Ici, ce projet se restreint aux populations sauvages, ne porte pas sur les populations semi-domestiques. Et en particulier, c'est de voir quelles sont les menaces sur ces populations en termes d'exploitation, par exemple, gazière ou pétrolière. Ça devient un problème de plus en plus important dans l'Arctique. De changement climatique, évidemment, mais aussi de parasites, par exemple, de nouveaux parasites qui arrivent par le sud. Alors, dans ces évolutions d'effectifs, la plus dramatique, alors on peut m'accuser de biaiser un peu le débat, puisque je prends l'évolution la plus dramatique ici, c'est une des populations de caribous la plus au nord que l'on connaisse, celle de Caribou Perry, qui sont donc vers l'île d'Ellesmere et les îles autour. Cette population, en gros, est presque éteinte, elle est vraiment en voie d'extinction. Elle est passée d'environ 50 000 à maintenant de l'ordre de 1 000 individus, et essentiellement à la suite d'hivers répétés avec des précipitations sous forme de pluie qui conduisent à un englassement de la végétation et donc à ce que ces individus ne puissent pas se nourrir. Donc là, il y a un problème sérieux en termes vraiment de biologie, de la conservation. Alors maintenant, donc, je remonte encore un peu d'un niveau. Donc un projet sur lequel je collabore avec des collègues du Québec, donc Gilles Gauthier à l'Université Laval et Dominique Berthaud à l'Université du Québec à Rimouski, et avec lequel nous collaborons donc aussi avec des chercheurs russes, donc Arctic Wolves. Ce projet n'a rien à voir avec les loups. Donc Wolves veut dire Wildlife Observatories Linking Vulnerable Ecosystems. C'est toujours sur recherche d'acronymes. Un des sites centrales de ce projet, c'est l'île de Bilot, donc qui est au nord de la terre de Baffin. Mais ce qui caractérise ce projet, ce qui, je pense, le rend vraiment intéressant, c'est qu'il y a toute une série de sites. Une série de sites au Canada, qui sont les sites en jaune, coordonnés donc par nos collègues du Québec, et toute une série de sites en rouge, donc en Russie et en Norvège, que je coordonne. Un des résultats majeurs, et qui a fait un peu les titres des médias, en tout cas en Amérique du Nord, c'est le résultat d'avoir marqué des chouettes arfans sur l'île de Bilot, à l'été 2007. Alors, on savait déjà avant que ces chouettes arfans pouvaient bouger sur de très grandes distances, mais même les gens connaissant les chouettes arfans ont quand même été étonnés de ces résultats. Là, je vous montre le retour des chouettes arfans l'été d'après. Elles ont été marquées à l'été 2007. Donc là, elles reviennent de leur site d'hivernage. Et l'île de Bilot serait au nord de la terre de Baffin. Donc, celle qui est en jaune là-bas est à peu près revenue d'où elle était marquée l'année d'avant. Par contre, vous voyez qu'il y a des chouettes arfans qui sont revenues depuis Terre-Neuve ou depuis celle aux États-Unis était dans l'état du Dakota. Donc, existence assez longue. Et en fait, celle qui était dans l'état du Dakota est allée jusqu'à Ellesmere. Donc, ne s'est pas arrêtée vers Bilot. Et en fait, la raison pour laquelle très peu sont revenus sur Bilot, c'est qu'il n'y avait pas de lemming sur Bilot cette année-là. Donc, elles se sont arrêtées pour l'essentiel sur la terre de Baffin où, en fait, il y avait une population de lemming cette année-là. Un autre résultat majeur qui a été vraiment une surprise pour les gens travaillant sur les chouettes arfans, c'est qu'en hiver, la chouette arfan devient en partie marine. Personne ne s'imaginait trouver des chouettes arfans sur la banquise en plein hiver. Là, donc, ce sont les résultats encore obtenus par ses collègues québécois, donc Thérien, Gauthier et Betty. Donc, 6 individus sur 9 ont passé, en moyenne, donc 43 jours, un mois et demi, sur la banquise. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'elles font sur la banquise. On soupçonne qu'elles se nourrissent d'éders et d'autres oiseaux de mer. Et là, c'est, clairement, c'est quelque chose qui va être exploré dans les années à venir. Mais ça a été vraiment une surprise. Et apparemment, les Inuits n'observaient pas tellement de chouettes harfangs sur la banquise, peut-être parce que les zones fréquentées par les chouettes harfangs ne sont pas des zones propices ou trop dangereuses pour la chasse pour les Inuits. Pour vous convaincre ensuite de l'étendue des migrations des chouettes harfangs, voilà d'autres chouettes qui, elles, sont vraiment choisies de ne pas rester autour de Bilot ou de la terre de Baffine. Donc ce sont toujours les mêmes individus qui ont été marqués sur Bilot en 2007. Ce printemps, donc il y a juste 3 semaines, un certain nombre d'individus sont maintenant en Alaska et mes collègues canadiens maintenant attendent qu'ils aillent encore un petit peu plus loin, peut-être en Sibérie, ce qui montre vraiment que les populations de chouettes harfangs sont des populations circumpolaires. Elles utilisent vraiment l'ensemble de l'Arctique. Alors, ce projet donc Arctic Wolves, réunissant tout un ensemble de scientifiques en Sibérie, au Canada, donc en Norvège, et aussi donc au Groenland, a permis d'essayer d'en savoir plus clair sur quelque chose qu'on soupçonne depuis quelques années, c'est que les cycles de lemmings sont en train de disparaître. Donc il y a eu quelques articles l'année dernière en particulier donc, qui essayent de rassembler cette information. Et dans le cadre d'une réunion que nous avons eue au Québec là, en février, nous avons comparé donc, les données que nous avons au Groenland, en Norvège ou au Canada. Et tout semble bien concorder, c'est-à-dire que aussi bien au Groenland qu'au Canada, qu'aussi dans certaines parties de la Russie, apparemment, donc, ces cycles de lemmings sont en train de disparaître. Le gros problème, c'est que nous avons en général une perspective historique très courte. La plupart de ces séries temporelles ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Celle sur les lemmings, donc, qui a fait l'objet d'un article dans Nature, donc, qui est en bas ici, est 30 ans, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce que nous avons essayé de faire, c'est essayer de revenir en arrière en utilisant des données indirectes. Ici, par exemple, avec donc des collègues à Tromsø, regarder les données sur les renards, qui sont donc des prédateurs de lemmings. Et nous sommes aperçus qu'au début du XXe siècle, donc fin 19e, début du XXe siècle, les renards avaient une dynamique vraiment cyclique avec des périodes de 3-4 ans, donc quelque chose, un cycle classique. Mais que dans la période chaude, donc, qui a déjà été évoquée dans les années 1920-1930, ces cycles ont soit disparu, soit ont commencé à avoir des périodes un peu aberrantes par rapport à ce qu'on connaît d'habitude des cycles de lemmings, donc qui sont avec des périodes qui étaient soit de 3 ans, soit de 5 ans. Et on est revenu en fait ensuite, dans la période relativement froide, donc des années 50-60, de nouveau à une dynamique cyclique. Donc c'est un indice, en tout cas, de l'importance du climat pour ces fluctuations de lemmings. Un autre problème qui se pose dans l'Arctique, c'est l'invasion par des espèces du Sud. Et le meilleur exemple, c'est la colonisation par le renard roux de nombreuses zones de l'Arctique. On soupçonne que c'est vraiment une des causes essentielles de la diminution, de la quasi-extinction du renard polaire en Scandinavie. Là, en bas, vous avez la dynamique dans le nord de la Finlande. En bleu foncé du renard polaire, en rose ou rouge du renard roux. Bon, je n'ai pas tellement de commentaires à faire là-dessus, c'est assez clair. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce renard roux a colonisé l'Arctique depuis à peu près 70-80 ans. Là, vous avez les dates de première observation de renard roux dans l'Arctique canadien. Donc, cette colonisation n'est pas récente. Hein, la première, c'est 1918. Vous voyez, ça va jusqu'en 1962. Donc les premières observations de renards roux quasiment en l'île d'Ellesmere. Donc vraiment, c'est une colonisation qui va jusque dans le haut Arctique. La raison de cette colonisation n'est pas climatique. Là, ça devrait être clair à partir de ce qu'on voit sur le Canada, puisque ça couvre à la fois des périodes chaudes et des périodes froides. C'est clairement aussi lié à l'homme, qui lui fournit, par exemple, au niveau de la nourriture, indirectement, via des dépôts d'ordures, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas que le climat qui est important, évidemment, il y a aussi d'autres aspects. Dernière observation, avant de conclure, c'est quelque chose dans le cadre de la polarisation nationale, ici sur la péninsule de Yamal. d'interaction entre renard roux et renard polaire. En haut, un terrier de renard polaire avec 8 renardos, donc observé en juillet 2007. Quelques jours plus tard, un renard roux s'installe sur le terrier. Les renardos et donc polaires et le couple de renards polaires qui était là avaient disparu. Ils n'ont plus été observés dans les environs. Alors, cette colonisation par le sud a amené un de mes collègues, donc Dominique Berthaud, à parler de ce qu'on appelle du paradoxe de la biodiversité en Arctique. C'est-à-dire que nous avons un problème d'extinction d'espèces endémiques, d'espèces emblématiques de l'Arctique, comme le renard polaire ou la chouette arfan, mais nous avons en fait une augmentation de la biodiversité, parce que c'est plus que compensé par une colonisation d'espèces du sud, comme le renard roux, certains campagnols, et ainsi de suite. Donc en termes de biodiversité, la biodiversité augmente, mais c'est bien sûr d'un point de vue qualitatif que le changement se passe. Alors les legs, c'est d'abord la possibilité d'études comparatives à l'échelle de l'Arctique, ça c'est quelque chose que l'année polaire internationale, pour nous, dans l'aspect écosystème, a rendu vraiment possible et a favorisé. Ça, je pense que c'est une expérience qui a été unique de ce point de vue-là. Nous avons vraiment mis en place les mêmes protocoles dans tout l'Arctique, de façon circumpolaire. Les principaux résultats, je l'ai dit, c'est verdissement de l'Arctique, ensuite changement de dynamique des lemmings, et donc cette colonisation par les espèces du Sud. Je dirais que c'est un peu les trois points principaux à retenir par rapport à ces projets à l'échelle internationale. Bien sûr, ça a permis un état des lieux, si on se projette dans l'avenir, surtout de regarder ce qui manque. Où y a-t-il des trous ? Collaboration circumpolaire, on a insisté là-dessus, c'est très important. Je pense que nous avons donc développé des collaborations avec les Russes. Mes collègues américains ont fait pareil. Ça, je pense que ça a été quelque chose de vraiment nouveau d'arriver à développer cette collaboration donc, de façon internationale. Et on espère vraiment que ça pourra se poursuivre. Merci.
L'Antarctique est un continent, un vaste continent de 14 millions de kilomètres carrés, entouré par un très grand océan, l'océan Austral. Et ça, cela va avoir des conséquences considérables sur la faune et la flore qui peuplent cette région. Ce continent, ceci est un diagramme que j'ai emprunté à Frédéric Rémy qui a parlé ce matin de glaciologie. Vous voyez que ce continent est recouvert à 98% de glace et surtout sur une très grande épaisseur de glace. La profondeur moyenne de cette calotte glaciaire est de l'ordre de 2000 mètres, donc c'est quelque chose de considérable. Et seulement 2% de ce continent est libre de glace, et c'est sur ces 2% que l'on va trouver en majorité la faune et la flore de ce continent. Mais si on s'intéresse à l'océan qui entoure aussi ce continent, et bien vous voyez qu'il y a, j'ai fait figurer sur cette diapositive, deux lignes bien marquées qu'on appelle la convergence subtropicale et le front polaire, qui sont deux discontinuités marines fondamentales qui vont elles aussi jouer un rôle dans la distribution de la faune et la flore, qu'elle soit marine ou terrestre. Et vous voyez, j'ai indiqué également ici un certain nombre d'îles qui sont coincés entre ces deux discontinuités marines et qu'on appelle les îles subantarctiques et dont on a eu l'occasion d'entendre parler tout à l'heure, notamment par M. le préfet. Alors, pourquoi ces discontinuités marines et cet océan jouent un rôle important ? Eh bien, tout d'abord parce qu'ils isolent complètement ces îles et le continent. Vous voyez ici, j'ai indiqué que ce qu'on appelle le passage de Drake, qui sépare l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique, s'est ouvert en fait il y a entre 23 et 28 millions d'années. Et c'est uniquement à partir de cette période-là que le courant circumpolaire qui circule dans ce sens autour du continent s'est mis en place et a contribué à isoler le continent. J'ai indiqué également qu'on retrouve des traces de vie importantes avec des fossiles d'arbres, par exemple, sur le continent antarctique, jusque 8 ou 10 millions d'années, mais qu'après cette période-là, il y a eu la période des glaces qui se sont installées, et donc la vie a été considérablement réduite. Et puis, aujourd'hui, donc, on a ce front polaire-là qui constitue une barrière physique réelle pour la migration de la faune marine, mais aussi sur la migration d'un certain nombre d'autres faunes ou flores vers les milieux terrestres. Et puis, point important qu'il faut rappeler, c'est que la plupart de ces îles ont une origine entièrement volcanique ou océanique, n'ont jamais eu de lien direct avec les continents et donc n'ont pas pu, on va dire, conserver une trace de la vie qu'il y avait sur le continent antarctique autrefois. Deux mots sur le climat également. Vous voyez que dans les îles subantarctiques, c'est un climat très tempéré, il ne fait jamais froid, jamais chaud. On va dire que c'est un climat breton soutenu, très venté, très pluvieux, plus pluvieux que la Bretagne, je peux en attester. Par contre, si on va en Antarctique, alors là, on a un milieu beaucoup plus contraignant, vous voyez, avec des températures à l'intérieur du continent de l'ordre de moins 30 degrés en été jusqu'à moins 80 degrés en hiver sur la station Concordia. Sur la zone côtière ou sur la péninsule antarctique, on a des températures qui peuvent être positives pendant une certaine période de l'année, en été. Et puis, ce qui caractérise aussi ces milieux, ce sont des milieux très, très secs. C'est-à-dire que les précipitations en Antarctique, généralement, se font sous forme de neige et très, très rarement sous forme de pluie, même si ces dernières années, eh bien, les phénomènes pluvieux, que ce soit en Terre Adélie ou encore sur la péninsule antarctique, on a pu le constater cette année encore, eh bien, ces phénomènes pluvieux peuvent se produire. Et donc, hier, nous avons eu une question dans la salle sur les milieux extrêmes. Qu'est-ce que c'était les milieux extrêmes ? En fait, d'un point de vue biologique et de la vie dans ces milieux-là, on pourrait dire pratiquement qu'on a des conditions qui sont limites pour la vie sur les îles subantarctiques, alors que lorsqu'on va au cœur du continent antarctique, eh bien là, effectivement, nous sommes réellement dans des milieux extrêmes. En parlant de ce climat, on l'a dit pendant ces deux jours, ce climat évolue. C'est une carte que vous avez vue à plusieurs reprises qui illustre effectivement que certains secteurs du continent antarctique se réchauffent très rapidement ces dernières années, et en particulier ici, vous voyez, sur la péninsule antarctique. Mais ceci est vrai également dans les îles subantarctiques. Cette figure illustre l'évolution des températures moyennes annuelles sur la base de Port-au-Français, enregistrée par Météo France depuis que la station est ouverte. Et vous voyez ici une très forte augmentation des températures moyennes annuelles depuis le milieu des années 60, qui est en gros une augmentation qui représente 1,3 degré sur ces années, et une stabilisation à un niveau élevé de ces températures. Mais ce qui est peut-être plus important encore que l'augmentation des températures pour la faune et la flore, c'est la disponibilité en eau. Et vous voyez que sur Kerguelen, ces dernières années, on a eu des phénomènes de sécheresse très très importants, de déficit en eau en été, de déficit en neige en hiver, qui ont conduit en particulier à un recul quasiment constant et permanent de l'ensemble des glaciers de Kerguelen. On a eu également une illustration ce matin, avec des phénomènes de sécheresse, je le disais, et de dépérissement de la végétation locale qui n'est pas habituée à ces phénomènes de déficit hydrique. Une autre caractéristique de ces îles, et de ce continent, c'est une histoire humaine très récente, à l'opposé de ce qu'on a vu en Arctique. Vous voyez, ici sont les dates de découverte de ces différentes îles. Grosso modo, c'est la fin du XVIIIe siècle. Certaines îles ont même été découvertes encore plus récemment. Et le continent antarctique lui-même, vous voyez, Jules Dumont-d'Urville est arrivé en Terre Adélie uniquement en janvier 1840, c'est-à-dire à l'échelle, on va dire, géologique ou même de l'histoire humaine, c'est hier, c'est il y a juste quelques minutes avant aujourd'hui. Et donc, cette découverte récente s'est ensuite accompagnée par une activité relativement limitée, mais ponctuellement ou localement importante, une activité économique de chasse à l'éléphant de mer aux otaries, qui s'est poursuivie grosso modo jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis ensuite, il y a eu la troisième année polaire internationale, 1957-1958, on l'a déjà dit, qui a marqué un effort de recherche très très important dans l'hémisphère sud, en Antarctique et dans les îles subantarctiques. Et là, on a eu l'ouverture, l'établissement d'un grand nombre d'observatoires permanents, de stations météorologiques, de bases permanentes de recherche, aussi bien sur le continent que sur les îles subantarctiques tout autour. Donc, si j'ai rappelé tout ça, c'est parce que c'est cet ensemble d'éléments, on va dire géographiques, physiques, humains, conditionne considérablement la biodiversité que l'on va observer aujourd'hui. On a donc un isolement très très fort, géologique, océanographique, historique. On a des contraintes climatiques très importantes, conditions limites à extrêmes, j'avais dit. Et donc, on a une faible biodiversité, c'est-à-dire un faible nombre d'espèces qui sont présentes dans ces milieux. À titre d'exemple, vous voyez, à Kerguelen, nous avons 29 espèces de plantes à fleurs, et lorsqu'on passe sur le continent, nous n'en avons plus que deux. Et lorsqu'on va encore dans des milieux encore plus contraignants en Antarctique, c'est-à-dire sur les Nunataks, au milieu de la glace, là, les plantes à fleurs ont complètement disparu, et ce sont des organismes comme des mousses, des lichens, qui deviennent absolument dominants ou qui abondent aussi sur les zones littorales. Autre caractéristique de cette faune et de cette flore, c'est son adaptation à ces milieux fortement contraignants. Vous avez ici l'exemple d'une mouche, d'un insecte, qui est en fait une mouche. Vous savez, pour les entomologistes, une mouche, c'est un diptère, c'est-à-dire c'est un insecte qui a deux ailes, deux paires d'ailes. Alors, vous voyez ici, les ailes ont complètement disparu. C'est une adaptation très particulière à ces contraintes climatiques, mais aussi de contraintes trophiques que rencontre, c'est-à-dire le besoin de trouver sa nourriture dans ces milieux-là, que rencontre cette mouche, qui ont fait qu'elle a évolué, qu'elle a perdu ses ailes, et qu'aujourd'hui, donc, elle constitue une espèce tout à fait particulière. Et ces espèces particulières, c'est ce qu'on appelle l'endémisme, sont des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Elles ont évolué ici, localement, sous l'ensemble de ces pressions de l'environnement. Et donc, on a un certain nombre d'exemples de plantes endémiques. Ici, le Lialia kerguelensis, une plante qui ne pousse qu'à Kerguelen. D'autres espèces d'insectes qui sont également endémiques de ces milieux-là. Et lorsqu'on va sur les Nunataks, ici, on retrouve une faune, une flore relictuelle. Mais alors là, c'est la microflore, ce sont des bactéries, ce sont des organismes aussi petits que ça, qui peuvent être des héritages de ce qu'il y avait autrefois en Antarctique. Et ce faible nombre d'espèces, cette adaptation particulière, se combine aussi par ce qu'on appelle des chaînes trophiques simplifiées. Vous savez que dans nos régions, les chaînes trophiques se résument entre la production primaire, c'est-à-dire la végétation, les herbivores qui mangent la végétation, les carnivores qui mangent les herbivores, etc. Et puis, tout ça fait un cycle qui retourne finalement à la Terre ensuite. Or, ici, on a une chaîne trophique qui est totalement déséquilibrée. On a bien un peu de végétation sur les zones côtières, mais très peu. Donc, on a peu d'herbivores stricts. On n'a pratiquement pas de prédateurs dans ces milieux-là. Et on a une dominance des décomposeurs, qui décomposent quoi ? La matière organique, donc le peu de matière organique végétale qu'il y a, mais surtout la matière organique qui provient d'un très grand nombre d'oiseaux et de mammifères marins. Et avant de passer à la diapositive suivante, j'attire votre attention aussi là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun vertébré terrestre dans ces milieux, que ce soit dans les milieux subantarctiques ou en Antarctique même, aucun vertébré terrestre originaire de ces milieux-là. Et donc, voici une vue pour illustrer ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que ces milieux, par contre, sont très, très riches du point de vue de la biodiversité des oiseaux et des mammifères marins, avec ici une immense colonie de manchots royaux sur l'île aux cochons, dans l'archipel Crozet, ou encore ici des pétrels, des albatros, qui sont en bordure de ces îles-là. Donc, une avifaune, on va dire, très riche dans le milieu marin, mais finalement, une biodiversité dans les milieux terrestres réduite. Et tout ça fait que ce sont des milieux, comme on dit, simples, peu d'espèces. Les interactions entre ces espèces sont plus facilement qu'ailleurs interprétables par les scientifiques. Ces espèces sont parfaitement adaptées, mais ça veut dire aussi qu'elles sont particulièrement fragiles et sensibles à toutes les perturbations de leur environnement. Et aujourd'hui, en gros, trois pressions pèsent sur cette biodiversité. Il s'agit tout d'abord des modifications climatiques. Il s'agit également de l'introduction d'espèces étrangères, c'est-à-dire d'espèces qui viennent de régions plus tempérées, et puis également l'accroissement de la fréquentation humaine dans ces milieux. Et je prendrai quelques exemples pour illustrer ces trois pressions. Premier exemple, c'est l'impact des changements climatiques. Et je prendrai un exemple de travaux réalisés par nos collègues du CNRS de Chizay sur les manchots royaux et leur distribution en mer pour aller chercher des nourritures. Vous voyez, l'étude parle des colonies de Crozet, ici, où les animaux descendent au sud de l'île pour aller se nourrir autour du front polaire, ce fameux front polaire dont je vous ai parlé à l'instant. Et on peut suivre donc ces animaux grâce à des petits géolocateurs, balises Argos par exemple, qui sont collés dans leur dos et qui permettent de suivre leur déplacement. Et voilà ce qu'on peut observer, c'est-à-dire que certaines années, en particulier les années particulièrement chaudes, on a des anomalies de position du front polaire qui se trouve très très au sud des colonies. Ici, on a ici l'exemple de 1997, d'une année chaude, où les oiseaux, les manchots, avaient plus de 600 km à parcourir pour aller sur le site de nourriture et revenir à la colonie pour nourrir le poussin. Et puis, en contraste, on peut donner d'autres exemples. Ici, 1994, une année où, au contraire, le front polaire était très proche de Crozet, de l'ordre de 300 km. C'est-à-dire que ici, l'effort pour aller s'alimenter en mer et revenir à la colonie était quatre fois plus important sur une année comme celle-ci que sur une année très favorable comme celle-ci. Et ça, ça se retrouve l'année suivante sur la taille des colonies, sur le succès reproducteur des oiseaux. Et vous voyez qu'après cet événement particulier, il y a eu, le mot effondrement serait peut-être très fort, mais une très très forte décroissance du nombre de couples reproducteurs dans cette fameuse colonie à Crozet. Donc ceci est un exemple de l'impact du changement climatique et de la localisation donc de ce front polaire, lieu d'alimentation des oiseaux, sur on va dire le succès reproducteur et la dynamique des populations de ces animaux. On a d'autres exemples. Vous voyez par exemple ici le cas du manchot empereur sur la colonie de Terre Adélie, qui effectivement au milieu des années 70 a subi une diminution très très importante, très probablement liée là encore à une succession d'années chaudes défavorables qui ont conduit à cette nouvelle situation où la colonie actuelle a énormément de mal à regagner la situation, l'état qu'elle avait dans les années 50 et 60. Et puis à l'inverse, vous voyez, on a d'autres espèces qui semblent se porter très très bien, du moins en Terre Adélie, avec une augmentation générale de la taille des populations. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exposé de Françoise Gay, ceci est à relativiser. Ça se passe très bien pour les manchots Adélie en Terre Adélie, en revanche, sur la péninsule Antarctique, là où le réchauffement est le plus important, on voit que les populations, au contraire, sont fragilisées. Ensuite, le nombre, les espèces introduites. Deuxième pression. Je vous ai donné quelques exemples ici. Il s'agit des plantes. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de plantes introduites sur les îles subantarctiques, beaucoup moins sur la péninsule antarctique, mais il y en a quand même actuellement. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un lien direct entre l'introduction de ces espèces et la fréquentation humaine. Vous avez ici le suivi du nombre de ces plantes introduites sur les îles françaises de Kerguelen ou de Crozet. Et voyez ici les dates d'établissement des stations permanentes. Et à partir du moment où il y a une présence permanente sur ces îles, avec du fret qui arrive, du personnel qui arrive, on a aussitôt une augmentation, une explosion du nombre de ces espèces introduites. On pourrait dire à peu près la même chose chez les insectes, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Beaucoup d'insectes introduits sur les îles subantarctiques, quelques-uns commencent déjà à être introduits sur la péninsule. Et puis, on a le cas des vertébrés. Je dis aucun vertébré terrestre originaire dans ces régions-là, mais des espèces introduites, alors qui ont été introduites soit volontairement, c'est le cas par exemple des saumons ou des truites à Kerguelen, également des moutons, des mouflons, également le cas du lapin qui a été introduit à la fin du 19e siècle par les marins anglais sur ces îles-là. Le chat encore. Et puis on a des espèces, des mammifères introduits qui accidentellement, comme le rat, la souris, et ça c'est le lot commun, on va dire, de toutes les îles qui sont fréquentées par l'homme. Je prendrai l'exemple du lapin pour illustrer un petit peu ce que je vous disais sur les chaînes alimentaires qui sont complètement modifiées dans ces régions-là. Le lapin, donc une photo tout à fait, on va dire, anachronique, de trouver un lapin au milieu d'une colonie de manchots royaux. Dans les îles de l'archipel Kerguelen, où il n'y a pas de lapin, vous avez une végétation très luxuriante avec un nombre d'espèces réduit, je l'ai dit, 29 espèces maximum à Kerguelen, mais donc relativement diversifiée. Sur les îles où il y a du lapin, vous observez des paysages de ce type-là, où la majorité des espèces locales ont disparu, et on se retrouve avec des prairies quasi monospécifiques d'une plante qu'on appelle l'acéna, qui est la seule, on va dire, à subsister un petit peu à la pression du lapin. Et lorsque des collègues du Muséum national d'histoire naturelle ont tenté d'éradiquer le lapin de manière expérimentale sur quelques îles de l'archipel de Kerguelen, sur trois îles, cette expérimentation avait pour but de voir si on pouvait observer le rétablissement de la végétation d'origine, on va dire, qu'il y avait avant l'introduction du lapin, ou en tout cas la végétation qu'on observe aujourd'hui sur les îles sans lapin. Et on est arrivé à des conclusions tout à fait étonnantes en raison du contexte du changement climatique actuel. Voilà l'allure de l'île en question qui a été, où le lapin a été éradiqué au début de l'expérimentation. Et puis, je vous ai dit, les sécheresses actuelles sévissant, eh bien, cette végétation a subi, a décliné elle-même de manière très, très importante. Et aujourd'hui, elle a été remplacée par des espèces introduites, et en particulier par du pissenlit, donc une espèce très, très banale, introduite. Et donc, on est passé d'une communauté, certes, déjà très fragilisée par le lapin, mais qui était constituée par une espèce locale, à des communautés qui sont plus constituées que par des espèces introduites. Et la dernière pression à laquelle je voudrais faire référence, c'est la pression humaine, avec, dans certains milieux, et en particulier en Antarctique et sur la péninsule antarctique, le développement d'une activité touristique très, très importante. Voilà ici les chiffres fournis par les tour opérateurs eux-mêmes du nombre de touristes visitant l'Antarctique chaque année jusqu'en 2006-2007. Les derniers chiffres ne sont pas connus. En gros, la différence ici, c'est en bleu, c'est le nombre de touristes qui était estimé à l'avance par les tour opérateurs, et en rouge, c'est le nombre de touristes qui effectivement ont visité ces régions-là. Et voilà ce qui s'est passé en 2006-2007, c'est-à-dire qu'on a eu un pic absolument énorme qui allait bien au-delà de ce que les tour opérateurs pensaient eux-mêmes, jusqu'à plus de 37 000 touristes visitant la péninsule antarctique. À ces touristes-là, il faut rajouter les guides, il faut rajouter les équipages des navires, les équipages des bateaux, des avions. Et donc, grosso modo, c'est à peu près aujourd'hui 50 000 touristes qui visitent chaque année le continent antarctique, et en particulier la péninsule antarctique. Et ça, c'est à mettre en regard aux 5 000 chercheurs et logisticiens qui travaillent sur le continent en même temps. Donc, vous voyez, 10 fois plus de touristes. Alors, ces touristes, évidemment, ils peuvent avoir un impact sur l'environnement. Le premier auquel on pense, c'est qu'ils vont faciliter l'introduction de ces espèces étrangères qui menacent aujourd'hui la biodiversité locale. Et donc, dans le cadre de l'année polaire internationale, il y a eu un projet qui s'appelle Alliance in Antarctica, qui est dirigé par une collègue de l'Australian Antarctic Division, Dana Bergström, et auquel des équipes françaises ont participé. Et en gros, il s'agissait, à travers ce programme, d'essayer de voir sur les navires, sur les bateaux qui allaient en Antarctique ou dans les îles subantarctiques, eh bien, qu'est-ce qui était transporté réellement par les visiteurs, qu'ils soient touristes, scientifiques, logisticiens, membres d'équipage. Donc, vous voyez qu'il y a eu plus, pendant ces deux années, il y a eu plus de 800 visiteurs qui ont été échantillonnés, un terme atroce, qui représente bien ce que c'est pour le scientifique. 21 bateaux ou avions ont été suivis sur plus de 55 voyages entre le continent et le continent antarctique. Vous voyez qu'un des résultats tout à fait préliminaires de cette étude, c'est que 30% des visiteurs transportaient des graines dans leur poche, dans leur sac. Et je pense que c'est à peu près le pourcentage qu'on pourrait obtenir si on faisait la même étude parmi cette assemblée aujourd'hui. Sans le savoir, nous transportons tous dans nos poches des graines que nous sommes susceptibles de redéposer plus loin. Vous voyez que ces graines ont été identifiées, elles appartiennent à plus de 250 espèces, et que ce sont surtout les sacs à dos, les sacoches d'appareils photo, les chaussures qui sont les vecteurs de ces transports. Et puis, par contre, quelque chose de tout à fait intéressant, auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est que les touristes et les équipages des navires sont finalement les moins vecteurs d'espèces, de graines introduites dans ces milieux-là. Ça peut s'expliquer assez facilement avec le recul. C'est qu'en fait, les touristes, généralement, lorsqu'ils vont là-bas, ils sont tellement contents, c'est l'expérience de leur vie. Ils s'équipent de neuf, ils arrivent avec des vêtements neufs qui ne sont pas contaminés. Alors qu'à l'inverse, eh bien, les scientifiques ou les logisticiens qui travaillent dans ces milieux-là, ils y retournent chaque année. Certains vont même travailler en Arctique en juin-juillet et puis en décembre-janvier, ils passent en Antarctique. Et donc, ils sont susceptibles, effectivement, eux, peut-être plus que les autres, de transporter des graines. Pour en terminer, je voudrais juste attirer votre attention sur un certain nombre de défis donc, qui ressortent de cette année polaire internationale et qui peuvent donner des pistes, à la fois pour la continuité des recherches, mais aussi peut-être pour que les décideurs, les responsables politiques puissent aussi prendre ces informations en considération et agir en conséquence. Le premier défi, c'est que le nombre de visiteurs en Antarctique va augmenter. C'est quelque chose d'évident. L'activité touristique est lancée. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de la stopper. Donc, c'est un fait. Et le nombre de navires visitant l'Antarctique va aussi augmenter. Et vous voyez que les risques, c'est bien sûr des risques d'introduction d'espèces, je l'ai dit, mais avec des risques beaucoup plus dramatiques, qui sont des risques d'accidents. Jusqu'à présent, fort heureusement, ces accidents n'ont jamais fait de mort. On a eu des navires qui ont disparu, mais tous les passagers ont pu être récupérés. Mais c'est un risque qui devient de plus en plus important. Et donc, de mon point de vue, c'est qu'il faut œuvrer réellement pour une régulation du tourisme en Antarctique. Le deuxième défi, c'est qu'on a une combinaison du changement climatique dans ces régions-là et d'une augmentation des activités humaines, et que ces deux éléments qui s'additionnent augmentent de naturellement le risque d'introduction et d'établissement d'espèces non indigènes, généralement originaires de régions plus tempérées. Je voudrais juste donner un exemple, c'est que la plupart des plantes et des insectes ont ce qu'on appelle un seuil de développement qui est généralement voisin de 2 degrés. Je rappelle que les températures moyennes dans les îles subantarctiques sont de l'ordre de 2 degrés. C'est-à-dire qu'il suffit d'une augmentation très faible des températures pour lever certains verrous pour l'établissement des espèces. Une augmentation de quelques dixièmes de degrés dans ces régions-là va avoir des conséquences considérables sur la biodiversité. À l'inverse, on peut penser qu'au milieu, au cœur du continent antarctique, où il fait moins 30 en été, si on a quelques dixièmes d'augmentation, ça aura probablement un effet sur la glace elle-même, l'environnement physique, mais certainement pas sur la biodiversité de ces régions. De même, si on va sous les tropiques, quelques dixièmes de degrés auront peu d'impact sur le fonctionnement de ces écosystèmes et sur la biodiversité. Mais là, on est dans des régions qui sont tout à fait charnières, et ce qui explique aussi leur sensibilité. Et donc, à mon avis, il est tout à fait important qu'on mette en place, ou qu'on soutienne le plus possible, des observatoires de la biodiversité antarctique pour détecter au plus tôt la présence de nouvelles espèces. Le troisième défi, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais en gros, ça veut dire que ces nouvelles espèces arrivant dans le subantarctique ou dans l'Antarctique donc vont fragiliser la faune et la flore locale. Et en fait, on va arriver finalement à ce qu'a décrit Gilles Yocoz avant moi en Arctique, c'est-à-dire un enrichissement de la biodiversité, si on va dire du nombre d'espèces qu'on va observer dans ces régions-là. Mais par contre, cet enrichissement va se faire, bien sûr, au détriment de la faune et de la flore locale, mais surtout par des espèces, qu'on va dire, banales, des espèces cosmopolites qu'on trouve partout. Et donc, on va aboutir à une banalisation de cette biodiversité. La biodiversité qu'on va trouver dans les îles subantarctiques ou en Antarctique dans quelques années, eh bien, cela risque d'être exactement la même biodiversité qu'on va trouver finalement dans un square à Paris. J'exagère peut-être un petit peu, mais à peine. Et donc, là encore, le rôle des observatoires de cette biodiversité sera fondamental. Autre point, c'est que l'éradication des espèces introduites marines est impossible à réaliser. L'éradication ou le contrôle des espèces introduites en milieu terrestre est quelque chose de souvent très compliqué à faire et souvent de très coûteux. L'élaboration de plans pour minimiser les risques d'introduction de ces espèces est souvent beaucoup moins coûteux et donc peut au moins retarder l'échéance de ces introductions. Et donc il y a, selon moi, urgence à mettre en place un certain nombre de mesures pour prévenir ces introductions et cette dégradation de la biodiversité. Ces mesures commencent déjà à être mises en place grâce à M. le préfet d'État, ces collaborations qu'on peut avoir entre l'IPEV et l'État. Donc c'est quelque chose qui est lancé, mais c'est quelque chose qu'il faut poursuivre et approfondir. Enfin, le dernier défi, et j'en arrêterai là, est plus général. C'est que, en fait, le message, et on l'a bien vu pendant ces deux jours, sur la réalité des changements climatiques est quelque chose d'aujourd'hui acquis. Il y a eu de très gros efforts de la part de la communauté travaillant sur le climat, sur l'atmosphère, sur les glaces. Il y a eu le soutien du GIEC pour cela. Et ce message, finalement, est passé auprès du grand public, est passé auprès des décideurs. Je dirais presque que c'était facile. Bon, je vais m'attirer des inimitiés. Non, ce que je veux dire par là, c'est que sur le climat, on a des éléments très objectifs pour décrire les choses. C'est-à-dire qu'on a des augmentations de température. Voilà quelque chose d'objectif que tout le monde peut comprendre. On a des reconstitutions climatiques avec des concentrations de gaz à effet de serre. Vous avez déjà vu cette courbe. C'est quelque chose qu'on peut expliquer très facilement. Peut-être pas très facilement, mais qu'on peut expliquer. On peut démontrer le rôle de l'homme dans ces évolutions. On l'a dit en Arctique, on a des peuples qui sont là. On a des gens qui vivent tous les jours ces conséquences-là. On a, lorsque le permafrost fond, on a des conséquences. On a des infrastructures qui s'effondrent, qui se fendillent. On a des aéroports qui deviennent inutilisables. Et donc, tout ça, c'est quelque chose de palpable. On a des risques, des évaluations des risques. Par exemple, vous voyez ici une élévation de 1 mètre du niveau des mers. Eh bien, voilà ce que ça peut donner comme projection. On a des modèles qui sont en place, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui peuvent être améliorés, mais qui donnent quand même des indications. En ce qui concerne la biodiversité, le message est loin d'être passé. Et tout le travail reste encore aujourd'hui à faire. C'est pour ça que je conclurai là-dessus en disant qu'il est vraiment très très important, à mon sens, de poursuivre et de renforcer l'information auprès du grand public, des décideurs, des hommes politiques, sur la nécessité qu'il y a à protéger la biodiversité, à conserver cette biodiversité et à d'œuvrer non seulement dans les régions polaires, mais à l'échelle de la planète. Je vous remercie.
Et donc je suis particulièrement heureux car la clôture de ce colloque va être extrêmement fructueuse. Je sais qu'en effet, Votre Altesse, vous avez énormément contribué par la création notamment d'une fondation. Je connais et nous connaissons votre attachement à la protection de l'environnement et de l'homme. Et je crois d'ailleurs que nous partageons là un souci commun. Souci aussi, bien entendu, que le gouvernement a en ayant créé, et je vous remercie, monsieur le ministre d'État, d'être parmi nous, un ministère qui s'intéresse à l'écologie, à l'énergie, au développement durable. On a l'impression de lire en quelque sorte le titre de notre chaire annuelle et de l'aménagement du territoire.
Un demi-siècle après la troisième année polaire internationale, celle qui s'achève aujourd'hui, marque une nouvelle étape dans la prise de conscience à l'échelle planétaire de l'indispensable et urgente préservation des régions polaires. Ceux-ci subissent en effet, en dépit de leur éloignement des centres d'activité économique, non seulement l'impact des pollutions, mais aussi les effets des changements climatiques. Il est en revanche très réconfortant de constater la forte mobilisation de tant de scientifiques et désormais également de responsables de la société civile et de responsables politiques. Pour ma part, il m'est apparu fondamental, dans le contexte de mon engagement pour la sauvegarde de notre planète, de marquer cette année polaire par une mission que j'ai effectuée en Antarctique au mois de janvier dernier. Je vois chaque jour se développer les fruits de cet engagement grâce au soutien de femmes et d'hommes convaincus, comme chacun de vous ici, que nous devons tout mettre en œuvre pour protéger notre environnement, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. La Méditerranée, au bord de laquelle se situe mon pays, est dès aujourd'hui vulnérable, fragilisée par beaucoup d'événements et d'éléments, mais en particulier par le réchauffement climatique. Or, ces risques qui touchent la Méditerranée ainsi que d'autres mers et océans, c'est aussi en Antarctique que nous pouvons mieux les comprendre, mieux les étudier, sinon peut-être les prévenir ou tout au moins en atténuer les effets. Il y a en Antarctique une communauté scientifique exceptionnelle venue de tous les continents pour étudier, entre autres disciplines, les changements climatiques, pour tenter de mieux comprendre, dans des glaces plusieurs fois millénaires, l'évolution de notre planète et de son climat. C'est pour cela que j'ai entrepris cette expédition, pour écouter la communauté scientifique, mieux comprendre son travail, et aussi pour mieux appréhender les enjeux qui s'y jouent. Cette communion autour d'un objectif commun qui transcende les nationalités est aussi pour moi l'accomplissement de ce qui fut l'un des rêves de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, un témoignage de fidélité à ses valeurs, si étroitement liées à la science et à ses craintes, déjà à son époque, pour notre planète. Cela me conforte dans la justesse de l'action que je conduis et dans la nécessité de toujours davantage se mobiliser pour entendre, aider et inciter les scientifiques à une collaboration plus accrue. Car là réside aussi l'une des clés du développement futur de nos sociétés, dans un monde où l'innovation joue un rôle essentiel. Et cela est particulièrement vrai en période de crise, alors qu'il nous faut réinventer en grande partie notre modèle économique. Tel est le message de confiance que j'ai retenu de la communauté scientifique, car nous nous devons de porter leur parole et de la diffuser. L'intelligence, la compréhension et la sensibilisation sont nos meilleures armes au service non seulement de ces régions arctiques et antarctiques, mais bien entendu de notre planète tout entière.
Vous venez d'écouter les interventions du docteur Françoise Gaël, du professeur Nigel Yokoz et du docteur Yves Renaud présenter leurs travaux sur la biodiversité et son évolution en zone polaire, ainsi que le discours de clôture du prince Albert II de Monaco et de Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Je rappelle que la clôture de cette 4e année polaire internationale est présentée au cours de 4 retransmissions que vous pouvez écouter et télécharger sur le site de Canal Académie. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.